Restons courtois, nous sommes avec Philippe Charles, Jean-François Coulon-Desart et Damien Chalamel et nous recevons Alain Juillet, l'ancien directeur du renseignement au sein de la DGSE. Nous allons nous rapatrier un peu en France. On va parler de la France dans ce conflit. Le 30 mars, Donald Trump a attaqué notre pays, Alain Juillet, en l'accusant d'avoir été très peu coopératif. Et selon lui, les États-Unis s'en souviendront, nous a dit Trump. Est-ce que la France joue les faux amis? On prend un peu de hauteur. Hein, et où est-ce que Trump exagère? Vous qui avez une vision, une bonne hauteur sur ce type de conflit, qu'est-ce que...
Écoutez, je crois que la France a bien fait, d'abord, la France a bien fait de ne pas se trouver embarquée dans cette affaire qui se révèle un désastre. D'abord. Hein. Dans un premier temps, il est certain que quand les Américains ont demandé de pouvoir survoler l'espace français avec leurs avions pour aller là-bas, hein, et que les Français ont refusé, en disant non, pas question, nous, cette guerre, c'est pas la nôtre, c'est une guerre qui n'est pas légale, elle n'a pas été déclarée dans le cadre de l'ONU, elle n'a rien à voir, c'est une... Bon, donc on ne marche pas. On a eu raison, et on n'a pas été les seuls, hein. Les Espagnols ont été pareils, il y en a plein qui ont dit la même chose. Donc, si vous voulez, on a eu raison. Bon, ensuite, ce qui a rendu furieux notre ami Trump, c'est qu'après, dans un deuxième temps, il n'était pas content pour le départ. Ensuite, il dit, vous pourriez nous aider. Personne répond, on est aux abonnés absents. Ouais. Et troisième temps, il dit, pour le détroit d'Ormuz, il nous dit, enfin, c'est pas comme ça qu'il le dit, mais c'est la réalité, je ne peux pas m'en sortir tout seul, venez à mon aide. Et on lui répond, il n'en est pas question, on deviendra quand la paix sera signée. Donc, si vous voulez, comment voulez-vous que Trump, quand on le connaît, comment voulez-vous qu'il soit content? Il est évident qu'il est furieux.
Il s'est senti trahi.
D'un côté, il a bien cherché.
C'est ce que j'allais dire.
Il a bien cherché.
Les droits de douane dont il nous a assommé.
Et qu'est-ce qu'il nous a pas fait à nous?
Voilà, c'est tout.
Vous savez, hein, quand vous commencez à provoquer tout le monde comme il l'a fait un certain nombre de fois, après, il ne faut pas s'étonner qu'il t'entend, vous prenez un coup sur la tête. Et là, il l'a pris.
Mais moi, j'avais justement une question de fond à vous poser. C'est que autant on comprend les motivations des Israéliens, autant moi, j'ai à part. Cette hypothèse vis-à-vis de la Chine, de priver, et c'est un domaine que je connais bien, la Chine, des importations de pétrole iranien, etc. Mais ce que je veux dire, le jeu n'en vaudrait pas la chandelle, il y aurait eu des moyens beaucoup plus efficaces et beaucoup plus simples d'y arriver. Donc, pourquoi est-ce que Trump s'est laissé embarquer dans cette affaire? Donc, est-ce que c'est de l'inconscience ou est-ce qu'il y a
une motivation cachée? La dernière réponse, elle a été donnée hier dans le Washington Post, où il y a une enquête qui a été faite qui est... On le pensait tous, mais on n'avait pas les éléments. Maintenant, on les a, donc on est content. Le 11 février, Netanyahou a été à voir Trump avec son état-major, enfin avec son gars du Mossad et quelques autres, et il lui a dit « Voilà les plans pour attaquer. C'est le moment pour attaquer l'Iran. On peut détruire tout et il va y avoir un soulèvement populaire. » Et il a amené toutes les informations là-dessus. Bon, ça c'est première étape. Réaction dans la salle de réunion. Wittdorf, qui est le négociateur en chef pour les Américains en Ukraine et ailleurs, a dit « j'y crois pas ». Vance a dit « ne faites pas ça, parce que nous avons été élus pour faire la paix, pas pour faire la guerre ». Donc Vance, il a été très clair. Hein. Bon, mais Jared Kushner, qui est le gendre de Trump et qui est un grand copain de Netanyahou, a dit « non, Netanyahou a raison, il faut y aller ». Et Trump, il s'est laissé convaincre. Alors il a dit à ce moment-là, on est le 11 février, il a dit à son état-major, on va regarder pour faire la guerre, on va faire la guerre, regardez ce qu'on peut faire. Réponse de l'état-major, on le sait maintenant. L'état-major de l'armée de terre a dit, on ne peut pas faire une attaque terrestre. C'est trop compliqué, le pays est trop grand et on va retomber dans des coups comme l'Irak, il ne faut pas recommencer. On peut faire des opérations ponctuelles, des parachutages, des trucs de force spéciale, mais on ne peut pas faire plus. Il y a eu le chef d'état-major des armées qui lui a dit « on peut le faire sur le plan militaire, mais attention, on risque d'avoir un manque de moyens, on va consommer tous nos moyens, de missiles et autres, et après on va avoir un problème pour la défense des États-Unis et pour le reste du monde ». Il n'avait pas tort, parce que c'est ce qui s'est passé, puisque maintenant on sait que Trump a demandé que tous les missiles qui étaient en Corée du Sud et dans la zone soient rapatriés vers le Moyen-Orient et les États-Unis pour remplacer ceux qui manquent. Donc on est en plein dedans. Et le troisième élément qui est très intéressant, c'est qu'il a été dit à Trump, attention, il y a un risque énorme sur Hormuz.
Ah, ça y est,
absolument. Ils l'ont dit. Ouais. Ils ont dit, il y a un risque énorme de blocage d'Hormuz. Et Trump a dit, on s'en fout, on y va.
On reparlera d'Hormuz tout à l'heure avec Philippe Jeanne.
Ouais, c'est terrible.
Avec
hein.
Philippe Charlès.
Oui, donc il s'est vraiment laissé embarquer là-dedans.
Damien Chalamel.
Oui, pardon. Alors en fait, j'allais citer le même article. Alors je ne crois pas que ce soit le Washington Post, mais je l'ai devant moi. C'est un article du New York Times, je le précise.
Ah, mais il y a aussi, ils ont sorti, il y a plus tout le monde a sorti.
Ça, même, ça intéressera, mais enfin, ouais. Celui du 7 avril.
Oui.
Bon. Et en tous les cas, dans l'article moi, que j'ai sous les yeux du New York Times, c'est qu'il relate effectivement cette décision. Il y a notamment un épisode qui est relaté où l'agent représentant la partie israélienne explique qu'ils ont le scénario d'un remplacement du pouvoir civil en place.
Ouais.
Et Marco Rubio, en connaissance de cause, dit à la partie américaine que tout ça, c'est de la pure invention, mais que ça ne tient pas la route. Donc ça veut dire que, pour répondre à la question de Philippe, c'est que pourquoi les Américains y sont allés? Ben, la réponse, c'est Donald Trump lui-même.
Oui.
Et sur la base de quelles informations? Et ben, celles dont on sait qu'il les avait à sa disposition. C'est-à-dire qu'il est allé en pleine connaissance de cause du fait qu'il n'y avait pas de solution de substitution de ce régime crédible. Oui. Et qu'il y avait des risques majeurs.
Oui.
Voilà. Et il y est allé quand même parce que, bien, il y a un pays qui a un objectif de guerre. Mais j'allais dire depuis 40 ans vis-à-vis de l'Iran, c'est Israël.
Oui, mais donc ça veut dire, je reviens toujours à ses motivations.
Philippe Charlès et puis Jean-François
Coulon-Desart. Sa seule motivation, c'était de faire plaisir à Israël au risque, avec des risques inconsidérés.
Ah bah là oui, ça. Maintenant on en est sûr. Avant, on pensait qu'il y avait d'autres choses, maintenant on en est sûr.
C'était
quand même vraiment pas mal piloté.
Mais c'est déjà pas mal.
Vous avez raison, je me suis trompé, c'était le
New York Times.
Je crois. Pas le Washington. Alors, Washington Post, il a sorti un autre truc, mais enfin, ce sera une autre histoire. Si on l'évoquera tout à l'heure.
Deux points.
Jean-François Coulon-Desart.
Deux petites réflexions, parce que c'est quand même amusant que la première armée du monde, en tout cas l'une des premières, les États-Unis, avec le budget militaire énorme.
Non, c'est pas l'une des premières.
1 000 milliards de dollars.
C'est clair. N'arrive pas à mettre par terre finalement 300 000 gardiens de la Révolution, parce que les proportions sont à peu près ça.
Il faudrait
maintenant
une opération.
La question, ils maîtrisent l'air, ils maîtrisent les mers, effectivement il y a Hormuz, on en parlera tout à l'heure, mais la question c'est, on s'est aperçu qu'au fil des semaines, les Iraniens tiraient de mieux en mieux, de plus précis.
Les missiles.
Quel rôle ont joué les Russes et les Chinois? Est-ce qu'ils ont aidé les Iraniens, parce qu'ils sont alliés, est-ce qu'ils les ont aidés à ce niveau-là?
Oui, ben je pense que là-dessus, il n'y a pas de doute. De même que les Américains fournissent en Ukraine toutes les images pour que les opérations puissent se faire au niveau de l'armée ukrainienne, les Chinois indiscutablement, et sans doute les Russes, mais probablement au moins autant les Chinois, ont fourni les images satellitaires, parce que pour toucher, par exemple, pour détruire avec un missile la villa de Netanyahou, hein, en Israël, il faut avoir les coordonnées de la villa. Ça ne se trouve pas sous la pied d'un cheval. Hein, et n'empêche qu'il a plus de maison, Netanyahou, quand même. Hein, donc ça, il faut bien
voir. Sa maison a été touchée.
Ah, complètement, elle est détruite, complètement. La photo est magnifique, elle explose. Si vous voulez, d'une part, il y a ce problème. Le deuxième point, c'est que les missiles iraniens, la grande surprise de cette guerre-là, par rapport à la précédente de 10 jours, là, qui avait duré 10 jours, c'est qu'ils sont beaucoup plus précis.
Voilà.
Alors pourquoi ils sont, on dit en précision de 1 mètre à 1 mètre 50, hein, alors qu'avant c'était 20, 30, 40 mètres. Bon. Pourquoi? C'est parce que, alors là on est sûr que c'est les Chinois. Les Chinois leur ont donné un système de positionnement pour qu'ils mettent dans les fusées, pour les guider, hein, un système qui est un système qui utilise non pas le GPS, ni le Galiléo, mais qui utilise un croisement du système russe et du système chinois.
D'accord, ok.
Et là, le GPS, on peut le changer. Vous savez que le GPS,
c'est intéressant parce que ça montre les grandes alliances qui se dessinent derrière
exactement
tout ça. Hein. Iran, Chine, Russie.
Ah oui, c'est très clair. Ils les ont aidés.
États-Unis, l'autre.
Mais d'une manière, si vous voulez, comme nous, on aide l'Ukraine et autres, où on dit, ah non, on n'est pas en guerre. Donc vous ne pouvez pas nous en vouloir, on n'est pas en guerre. N'empêche que sans nous, ce n'est pas possible.
Bien sûr.
Mais c'est vrai que si ce régime tombe, parce que finalement les Iraniens, comme il y a quand même eu 35 000, on parle maintenant de 40 000 morts au mois de janvier de répression, si ce régime...
Oui, mais là, il y en a eu plus. Hein.
Oui, mais les Iraniens n'en veulent plus de ce régime, c'est très clair.
Oui, attention, méfiez-vous.
C'est pas si clair que ça.
Non, méfiez-vous, parce que... Méfiez-vous. Il y a deux choses. D'abord, quand... Vous savez, moi, je ne connais pas, dans l'histoire, hein, je ne connais pas de peuple qui est bombardé par un autre peuple et qui dit à la fin « Vive le peuple qui me bombarde ». Même les Américains en 1945, quand ils ont débarqué en France après avoir rasé des villes françaises,
de la côte,
il n'y avait pas l'enthousiasme. Bon, la photo, on vous montre l'enthousiasme. Il n'y avait pas l'enthousiasme parce que les gens, ils avaient les morts à côté. Il y a eu, il n'y a pas de doute, il y a eu 10 ou 12 000, peu importe, ou 15 000 cibles qui ont été touchées. Ah ben, les morts civiles, il y en a un paquet autour. C'est clair.
Évidemment.
Donc ça, il faut regarder les choses en face. Alors ça, c'est le premier point. Deuxième point, pardon, parce que je disais, le troisième élément, c'est qu'il faut bien comprendre que la guerre a été complètement bouleversée, pour les missiles, par le fait que les Iraniens avaient beaucoup plus de missiles que prévu.
Voilà.
Quand au début d'a commencé la guerre, on disait qu'ils avaient 1000 missiles, ils en ont tiré 700.
Oui, c'est ça, on nous a dit qu'ils seraient à sec en 8 jours.
Si vous avez regardé les dernières leçons hier, le Pentagone a dit qu'ils ont encore probablement, ils avaient 6000 missiles, ils en ont encore au moins 2000. C'est pas du tout la même chose.
C'est pas du tout pareil. Oui.
D'autant plus que vous avez les missiles antimissiles qui coûtent beaucoup plus cher que les missiles.
Les fameux patriotes.
Oui, les fameux patriotes et autres. Il faut en tirer plusieurs. C'est pas un missile contre un missile. Dans le dôme de fer, vous avez plusieurs missiles qui montent et qui vont exploser. Donc, vous savez, aujourd'hui, ils ont une diminution des capacités de tir. Donc, si vous voulez, ils ne peuvent plus arrêter tous les missiles. Et ça, c'est très important. Au début de la guerre, c'était 5% qui passaient. Hein, après ça a été 10, après ça a été 25%, aujourd'hui on est à 50% qui passent.
1 sur 2.
Alors comme ils sont précis et le dernier point, on ne touche pas aujourd'hui, la censure israélienne fait que vous-même, nous tous les journalistes, tout le monde, personne ne parle des cibles qui ont été touchées en Israël. On vous montre des maisons à Tel Aviv ou à Haïfa, on ne vous montre pas les ports, on ne vous montre pas les aérodromes militaires, on ne vous montre pas Beersheba avec l'unité 8200.
Vous dites qu'il y a eu beaucoup de dégâts.
Ouais. Partout, le Mossad, le centre humain. Il y a eu des dégâts considérables, et quand la guerre va s'arrêter, c'est là qu'on va s'apercevoir qu'en définitive, Israël a été très sérieusement touché.
Damien Chalamel, une question, et puis ensuite on va parler de l'essence.
Non, c'est un commentaire cette opération funeste dont on... rappelle qu'elle était qualifiée par un mot que peu d'Américains connaissaient, qui nous est familier, c'est le mot d'excursion, en guise de excursion.
Ouais.
Mais en revanche, il y a un autre front où là, je veux dire, malheureusement, c'est un succès relatif, militaire, je dis malheureusement pour les populations civiles, c'est ce qu'est en train de faire Israël au sud du Liban.
Ouais.
C'est-à-dire d'annexer quasiment militairement. On se croirait revenu à 1982, le Liban Sud, c'est-à-dire tout ce qui est au sud du fleuve Litani. Et là, on voit bien que l'hubris israélien et
enfin, ils se défendent aussi, je veux dire.
Ils se défendent,
Bah oui,
ils se défendent l'histoire de l'État-nation d'Israël, c'est l'histoire d'une expansion territoriale constante.
Certes,
effectivement,
ça n'empêche que le Hezbollah ne fait pas de cadeaux non plus.
J'entends bien, mais ils se sont... Et cette expansion, elle s'est faite au détriment de populations qui étaient là antérieurement. Donc, c'est pas...
Historique, effectivement.
On va refaire toute l'histoire sur laquelle
on peut beaucoup épiloguer.
Oui, allez-y.
C'est une question pour vous, Monsieur Jean-François. C'est que
Jean-François Coulon-Désart,
les États-Unis, la façon dont ils se sont comportés avec leurs alliés, l'Arabie Saoudite, Oman, les Émirats, etc., qui pensaient acheter à grand renfort de milliards de dollars leur sécurité, sont très déçus. Remodeler un petit peu toute cette région du monde. Les Français, notamment au niveau des armes, est-ce qu'on a un truc à jouer? Oui, non?
Bien sûr. Les Américains ont vendu, ont installé des bases, parce qu'il y avait des bases partout. Les Iraniens ont très intelligemment dit, on n'attaque pas vos pays, on attaque les bases américaines. Hein, d'abord, c'est comme ça que ça a commencé. Ouais. Bon, et à ce moment-là, les pétromonarchies ont découvert que, alors qu'ils se croyaient intouchables, eh ben, il y a des bombes qui leur arrivaient dessus. C'est évident, le réveil a été brutal. Mmh. Hein. Alors, c'est sûr que ça a cassé le lien de confiance voilà. avec les Américains, et que maintenant, il n'y a plus que deux solutions. Ou il y a une paix, et à ce moment-là, la paix, à ce moment-là, tout va bien, tout le monde se met d'accord et c'est fini. Ou il y a toujours des tensions, et dans ces tensions, ils vont chercher à avoir d'autres fournisseurs pour leur assurer leur sécurité. Donc oui, la réponse est oui. La France, si elle joue intelligemment, a des opportunités. Mmh. C'est clair.
Mmh. Allez, on va poser une question à notre ami Philippe Charlèze. Ah. Faut-il oublier le carburant à moins de 2 euros? C'est quand même la question pratique qui intéresse les Français aujourd'hui. Voilà, on touche le sol et l'intérêt direct des Français tout de suite.
Reste en Courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
Donc Philippe Charlèze, le pétrole, c'est une catastrophe ou pas? Est-ce qu'il faut qu'on mette de l'argent de côté pour faire le plein?
J'ai fait un petit calcul qui va mettre tout le monde mal à l'aise.
Mmh. Aïe,
vous avez
ça commence
peur.
Mal. Oui.
Vous prenez le prix du litre d'essence en 1960 et vous appliquez l'inflation. Mmh. À votre avis, vous arrivez à quel chiffre?
Oh, alors, j'ai aucune idée, je me tromperais.
Eh bien, vous arrivez à 2 euros.
Ouais. Ah, intéressant. Ouais.
Si vous faites la même chose sur le pain, vous arrivez à 1,3 fois l'inflation. Et si vous le faites sur l'immobilier à Paris, vous arrivez à 10 fois l'inflation. Donc ça veut dire que l'immobilier à Paris a augmenté 10 fois plus que le prix de l'essence.
Ouais.
Bon, alors cela étant, on a eu un rapport
vous
extrêmement...
Vous voulez me dire qu'en fait, à 2 euros, c'est pas cher. On a tort de se plaindre.
Je vous laisse interpréter parce que... Je n'oserais pas dire ça, je dis simplement que le prix de l'essence à 2 euros, c'est simplement le prix avec l'inflation appliquée depuis 1960.
Oui Philippe, mais est-ce que les salaires ont suivi l'inflation?
Alors le SMIC, lui, il a augmenté, il a été multiplié par 40, si j'ai fait le calcul. Donc ça veut dire que globalement, aujourd'hui, un SMICard peut s'acheter 4 fois plus d'essence qu'il n'achetait en 1960, sauf qu'à l'époque, très probablement, il n'avait pas de voiture. C'est là toute la différence. Mais donc, on a simplement pour exprimer qu'on a un rapport au carburant qui est très particulier par rapport à d'autres biens et services. Et c'est pour ça que... Parce que finalement, on n'est jamais descendu dans la rue pour manifester sur le prix de l'immobilier ou le prix des loyers, alors qu'on descend assez couramment pour se plaindre du prix de l'essence.
Les gilets jaunes, la dernière fois.
Alors maintenant, pour répondre à votre question, la question est...
Est-ce que ça va exploser ou pas?
La question est... Tout dépend... Je vais dire, c'est plus Alain Juillet qui a la réponse que moi, finalement. Ouais. Donc, c'est-à-dire, on voit très bien qu'à partir du moment où on observe une détente, on perd tout de suite, peut perdre en deux jours 20 dollars sur le baril. Mmh. Et quand on fait un petit calcul, je l'avais déjà dit, 10 dollars supplémentaires ou en moins sur le baril, ça correspond à 6 centimes sur le litre d'essence. Mmh. Donc ça veut dire que globalement, on a pris 40 centimes aujourd'hui, on est passé de 70 dollars à 110 dollars, vous avez à peu près le range d'augmentation. Mmh. Donc ça veut dire que globalement, si le conflit s'arrête et que le baril revient entre 70 et 80 dollars, oui, on retrouvera un litre d'essence à 1,70 ou à 1,80, ce qui reste finalement, par rapport à ce que je vous ai dit au départ, correct.
Ouais.
Néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est que même si le conflit s'arrête, les marchés vont quand même rester sous tension. Alors plus les marchés du gaz, je l'avais déjà dit, que les marchés du pétrole, tout simplement parce que les installations gazières de Qatargaz ont été fortement endommagées et que donc la production de gaz naturel liquéfié ne reprendra pas très vite. Si on réouvre le détroit d'Ormuz, il y aura incontestablement un effet de délai sur retrouver réellement les 20 millions de barils jour parce qu'on a dû arrêter des puits.
Non, parce qu'on sait qu'on monte à l'échelle très vite, mais que ça a du mal à redescendre. Hein. Les Français l'ont bien compris, ça, pour les prix.
Oui, alors c'est parce que c'est aussi anticipé par rapport à un marché. Alors, il y a sûrement des effets d'aubaine, hein, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. On ne peut pas le nier. Mais cela étant, quand on regarde dans la décomposition du prix de l'essence, je l'avais déjà dit aussi, la marge de distribution n'a pratiquement pas varié, elle aurait même un petit peu diminué, ce qui fait vraiment l'augmentation du prix du litre d'essence, c'est le baril de pétrole, le prix du produit raffiné, et spécialement du diesel qui a beaucoup augmenté, parce qu'on a beaucoup diminué nos capacités de raffinage en diesel, et on n'en importe plus de Russie, alors qu'on en importait pas mal de Russie avant le conflit russo-ukrainien. Et puis vous avez également les taxes qui s'appliquent mécaniquement, enfin les taxes, la TVA.
Ce que vous nous dites, Philippe Charles, c'est que ça va rester calé sur 2 euros.
Non, je pense que non. Ce que je vous ai dit, c'est que oui, si le conflit continue et s'amplifie, ça pourrait même monter largement au-delà de 2 euros. Mais si on revient dans une situation normale, on va dire que avec un baril à 70 dollars, une marge de raffinage à peu près normale, on peut revenir à 1,70, 1,80.
Philippe, une question technique.
Jean-François Colon-Désart.
Oui, dans un litre de pétrole.
Oui.
On ne peut pas tout transformer en diesel ou en essence. Quel est le pourcentage? Parce que c'est ça qui est intéressant. On a des voitures, 50% des voitures en France roulent en diesel. Et on ne peut pas en fabriquer autant, raffiner autant.
Tous les produits raffinés sont fabriqués à partir du pétrole brut.
Voilà.
Donc c'est-à-dire que le pétrole brut, nous qui sommes des grands amateurs de whisky, est en fait distillé comme est distillé le moût du whisky, c'est-à-dire vous en extrayez les parties légères et puis de plus en plus lourdes. Donc avec un baril de pétrole, vous faites de l'essence, vous faites du diesel, vous faites du kérosène et vous faites même du bitume.
À votre santé. Alors, je me tourne vers vous, Alain Juillet, le détroit d'Ormuz, est-ce qu'on peut espérer une détente, à votre avis? Ou est-ce qu'on entend parler de cette taxe? Vous savez que l'Iran compte
le droit de passage
installé sur les barils de pétrole, un dollar par baril, si j'ai bien compris. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que ça peut détendre l'atmosphère, cette histoire de taxe?
Alors, il y a deux choses. Sur le plan du droit de la mer, les accords de Montego Bay qui gèrent le droit maritime
82.
Dans son ensemble, précisent bien qu'on ne peut pas mettre une taxe au passage d'un détroit. Il y a 13 détroits stratégiques dans le monde, on ne peut pas mettre un droit de péage là-dessus.
Ah,
on peut mettre des péages sur Panama.
C'est le droit international, le maritime.
Ah oui, ça c'est... Alors, ceci dit, les Américains ne l'ont pas signé.
Et les Iraniens non plus.
Les Iraniens non plus.
Voilà.
C'est les deux seuls qui l'ont pas signé.
Les Américains et les Iraniens.
Voilà. Ça, c'est le premier point. Bon, le deuxième, c'est effectivement... Les Iraniens, c'est très intelligent, moi je trouve c'est très intelligent.
C'est des Perses.
Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, oui, c'est des Perses, une vieille civilisation. Ils disent, vous nous avez détruit notre pays, il faut qu'on le reconstruise. Alors, pour le reconstruire, là, une tradition, c'est que le pays attaquant, c'est lui qui paye. Il reconstruit le pays qu'il a détruit. Bon, très bien. Alors, les Américains disent, mais non, on n'a pas d'argent pour ça. Alors, ils disent, il y a une solution, on fait payer tous les bateaux qui passent. Et vu le nombre de bateaux qui passent, ça va nous permettre de refinancer, parce que là, on parle de votre coût par baril, on parle de millions de dollars, pour chaque bateau qui passe.
En fait, c'est pas des petits chiffres. Hein. Mais ça correspond pas à un chiffre très important sur le baril. Donc on parle de 2 millions de dollars par bateau, paraît énorme. Mais il faut savoir qu'une cargaison, c'est à peu près de l'ordre de 2 millions de barils. Donc vous multipliez par 100, ça fait 200 millions de barils.
Ouais.
Et donc ça veut dire que globalement, sur 200 millions de barils, vous payez 2 millions de dollars, ça fait 1%. Et le baril, c'est ce que vous dites, on se retrouve. Le baril est à 100 dollars, ça fait 1 dollar par baril. Or, 1 dollar par baril sur le litre d'essence, c'est peanuts.
Et 2 millions par bateau, quand vous regardez sur le nombre de bateaux qui passent par Ormuz, c'est vrai que ça constituerait une partie importante de la reconstruction.
Il y en a 100, par jour qui passent le détroit, donc 100 fois 2 millions, ça fait 200 millions par jour. Mais c'est partagé normalement entre l'Oman et ce qui est très intelligent aussi de la part des Iraniens.
C'est les Iraniens du Mali. Ils ont dit... On partagerait quand même. Et Trump, qui a dit, mais ils sont malins, ils ont bien compris le coup, Trump, il dit, mais moi aussi, j'en voudrais une partie.
Oui, c'est ça.
Aujourd'hui, il a dit qu'il n'avait pas dit ça et que
c'était hors
de question.
Parce que, il a pensé très fort. Mais
Donald a fait du Donald.
Si on comprend bien, ce sont quand même les propriétaires de voitures un peu du monde entier qui vont payer la reconstruction de l'Iran.
Ben oui, mais ah il faut bien que quelqu'un paye. Dans les,
Au Pakistan, là, quand on voit les exigences des Iraniens pour s'asseoir à table des négociations et les exigences des Américains, bon courage, parce que c'est quand même très, très, très antinomique. Ils veulent garder la bombe. Oui, mais ils veulent garder leur bombe. Pas question de donner leurs 400 tonnes de 400 kilos de plutonium. Ils veulent, je ne sais pas comment ils vont se faire.
Attention, il y a deux choses. D'une part, vous savez, dans une négociation chacun, évidemment, donne des positions maximalistes pour pouvoir ensuite s'avancer. Et si les Pakistanais ont réussi à faire un pont entre les deux propositions pour les amener à négocier, c'est qu'il y a des possibilités.
Oui, bon, j'espère.
Il ne faut pas oublier que juste avant la guerre, les Américains, à Oman, négociaient avec les Iraniens. Et ils s'étaient mis d'accord sur le nucléaire. Donc l'accord qui avait été fait avant le début de la guerre à Oman entre les Américains et qui consistait à dire les 450 kilos d'uranium enrichi, ils partent. En Russie ou ailleurs, dans un pays étranger, pour que vous ne puissiez pas les utiliser, je pense que c'est toujours valable aujourd'hui. Ils l'avaient accepté, ils l'accepteront. Là, les vraies questions, ça va être la question sur laquelle on a buté à l'époque, qui est celle des missiles, parce que les Américains ont dit « vous arrêtez vos missiles » et les Iraniens ont dit « attendez, vous nous enlevez la bombe atomique, vous nous enlevez plein de choses, au moins laissez-nous les missiles. » Et la négociation, elle va toucher là-dessus, et sur les sanctions. Enfin, il y a trois choses importantes. Il y a les missiles, il y a la levée des sanctions, parce que les Iraniens savent que s'il n'y a plus de sanctions, le pays va exploser, dans le bon sens. Ça sera la première puissance économique du coin. Et puis le troisième volet...
C'est le détroit d'Hormuz.
Comment ?
C'est le détroit d'Hormuz.
C'est vrai que le détroit d'Hormuz, c'est encore autre chose, mais... Je vous disais, vous avez les missiles, vous avez...
Les sanctions.
Vous avez les sanctions qu'il faut lever. Et puis le troisième élément, c'est que les Américains ne recommencent pas à les bombarder. Ils ont besoin d'une garantie internationale, ils l'ont demandé, pour dire, les Américains, deux fois de suite, en cours de négociation, sont venus nous bombarder, c'est pas supportable. Et les Israéliens, bien entendu. Donc nous, on veut une garantie internationale disant, si jamais vous attaquez l'Iran, alors il y aura une réaction.
Oui, mais
est-ce que le Pakistan. Pourquoi le Pakistan ?
Parce qu'il a la bombe.
Le Pakistan, il a la bombe.
Oui, mais est-ce
qu'il peut faire pour l'Iran ce que les Français proposent à l'Europe, dans le cadre de l'Europe ?
Mais
c'est pourquoi les Iraniens, les gardiens de l'évolution, ont bombardé Oman alors qu'ils avaient. Ils négociaient avant la guerre, ils négociaient à Oman. Pourquoi ils ont bombardé Oman ?
Ah, mais je pense qu'ils ont bombardé partout. Alors. Le calcul, c'est un calcul qu'ils ont fait, mais le problème, c'était de désolidariser les États-Unis de tous les pays. En tapant sur les bases américaines partout, ils ont passé un message très clair en disant « vous avez des bases d'un pays qui est notre agresseur, si vous ne prenez pas des mesures pour empêcher ça, c'est que vous êtes avec eux contre nous. »
Il n'y a pas de base à Oman, américaine.
Jean-François Coulon, j'aimerais qu'on passe la parole à Damien Chalamel.
C'est minime, il y a un petit truc.
Damien Chalamel. Un élément d'optimisme, c'est que cette délégation américaine, elle est quand même menée par J.D. Vance, dont on sait qu'il était le principal opposant à cette funeste opération. Donc, moi, je suis raisonnablement optimiste sur ces négociations.
Vance, il joue son élection.
Il joue 2020.
En juillet. Ouais.
Si jamais, parce qu'il a été mis, il a été envoyé par Trump, parce que Trump se rend compte qu'il a fait des bêtises, ses adjoints, ses collègues, tout le monde lui dit, et on dit on va mettre celui qui est capable de trouver une solution. Et on envoie quelqu'un qui veut la paix. Ça, c'est clair. Trump a désespérément besoin de la paix. On revient à ce que vous disiez sur le fait du pétrole. Pour Trump, si le prix du pétrole monte aux États-Unis à la pompe, il perd les mi-termes et Vance ne sera jamais président des États-Unis. Donc le problème aujourd'hui, pour eux, c'est de régler le problème d'Hormuz. Et pour régler le problème d'Hormuz, ils sont prêts à lâcher sur beaucoup de choses, les Américains. Alors, bien sûr, pas les Israéliens, on en parlera si vous voulez après.
Mais ils ont même une échéance, pardon de vous couper, mais c'est le 4 juillet.
Ben oui.
Parce que c'est le 250e anniversaire de la création des États-Unis.
Oui,
donc,
entre autres. On est bien d'accord. Ah. Et c'est, mais c'est pour, si vous voulez, les Iraniens le savent très bien tout ça, donc ils sont en train de jouer aussi. Mm. Hein, ils ont Hormuz, c'est l'arme atomique, hein, ça remplace la bombe atomique, Hormuz. Hein. Même si en définitive, ils n'ont jamais bloqué Hormuz, les Iraniens, jamais.
Mais leurs bateaux sont toujours passés.
Eh oui, mm. Ils ont toujours dit, les bateaux de nos amis passent, c'est les bateaux soutenant les Israéliens ou les Américains qui ne passent pas. Et c'est la compagnie, la compagnie anglaise Lloyd, qui a dit, attendez, comme ils ne seront pas capables de différencier les uns des autres, tout le monde peut être touché, donc moi, il y a les fameuses primes.
Je n'assure hein, pas, ou alors après...
Exactement. Et du coup, plus personne ne passe. Donc c'est ça le problème.
Allez, on vous garde encore un petit peu, Alain Juillet, c'est absolument passionnant. On aurait dû arrêter, mais on a décidé de vous prolonger un petit peu à notre micro. Tout de suite après cela, je voudrais qu'on prenne quelques billets d'auditeurs, quelques questions d'auditeurs.
Reste en courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
Allez, un auditeur nous demande, est-ce que l'Iran représente un risque nucléaire important et sont-ils, les Iraniens, sur le point d'avoir la bombe?
Alors,
est-ce qu'on peut répondre à cette question qui est une vraie, vraie question?
Je peux vous dire, sans trahir de secret d'État, mais je peux vous dire moi j'étais à la DGSE en 2002, pour ça je vous disais tout à l'heure qu'il y a longtemps hein, que j'ai arrêté la DGSE. Mais en 2002, j'ai vu les Israéliens venir et me dire, dans les 6 mois, ils vont avoir la bombe. Ouais. On est en 2026, ils disent toujours, dans les 6 mois, ils vont avoir la bombe. C'est-à-dire que c'est une obsession chez eux de dire, ils vont avoir la bombe. Oui, il est indiscutable que les Iraniens ont tout fait pour l'avoir. Mais ça ne se fait pas comme ça, une bombe. C'est très compliqué. Et l'enrichissement, vous savez, ils sont actuellement enrichis à 60%. Alors on vous dit, ils sont à quelques jours de pouvoir le faire à
90%. Non, parce qu'il faut 90%.
Ben, interrogez tous les techniciens de l'atome en France, ils vont dire que pour passer de 60 à 90, il faut du temps. Hein. Il faut du temps, il faut des moyens.
Damien Chalamel avait une question.
Et après, il faut mettre au point la bombe.
Oui, mais qui leur a vendu le matériel pour faire tout ça?
À ceux qui ont construit, les Pakistanais. Les Pakistanais, ils ont vendu le technique à la Corée du Nord, ça a marché. Ils ont vendu la technique à la Libye. On a obtenu que Kadhafi ne le fasse pas, mais il avait acheté la technologie au Pakistan. Et là, pour les Iraniens, c'est les Pakistanais qui ont fait.
Damien Chalamel.
Pour répondre à notre auditeur ou notre auditrice, je l'inviterai à lire les propos de Mme Tulsi Gabbard, directrice du renseignement national américain, et les propos également de M. Joe Kent, directeur du Centre national de lutte contre le terrorisme, qui ont tous les deux officiellement affirmé que l'Iran n'était pas une menace imminente, en ce sens qu'elle elle n'était pas prête de disposer de l'armement nucléaire. Donc en fait, c'est une obsession israélienne depuis 40 ans, qui est compréhensible.
On peut comprendre.
Si vous vous placez d'un point de vue israélien, il se trouve que, excusez-nous, on se place d'un point de vue français. Hein. Bon, mais depuis 40 ans, Israël brandit cette menace israélienne et qui finalement...
Mais elle est fausse.
Voilà, elle est fausse.
C'est une manipulation de l'information.
Et ça n'est pas nous qui le disons, ce sont les plus hauts responsables sur le renseignement américain.
Mais oui, c'est mais
c'est
on a tellement répété.
Ce sont pas des suppos, des bons risques.
On l'a tellement répété, si vous voulez, que ça allait faire, c'était le risque majeur, que les gens, à la fin, l'ont cru. Et quand vous dites, quand Tulsi Gabbard, la patronne quand même des renseignements américains, c'est pas rien, hein. Il y a 11 services aux États-Unis. Hein. Et quand elle vous dit, il n'y a aucun problème, ils ne sont pas capables d'avoir la bombe maintenant, c'est une évidence. Mais nous le savons tous.
Oui, mais les Américains nous ont dit aussi sur l'Irak, Saddam a des...
Il n'y avait rien.
On le savait qu'il n'y avait rien, mais ils ont essayé de nous le vendre.
Oui, mais ils ont eu le culot de venir nous le vendre, alors qu'on leur disait, nous on sait que ce n'est pas vrai.
Voilà, le premier et le seul beau discours de Villepin. Nous, je fais partie d'un vieux pays, la France.
C'est pas lui qui l'avait écrit, c'est Antonin Baudry.
Oui, tout à fait.
Celui qui a fait le film et qui va faire un film bientôt.
Absolument.
Le Chant du Loup.
Exactement. Alain Juillet.
Pour dire la vérité sur l'histoire.
Alain Juillet, un autre mot d'auditeur qui nous dit le général commandant en chef, est-ce que vous avez entendu parler de ça? Le général commandant en chef des services de renseignement et du contre-espionnage iranien aurait été tué dans une frappe israélienne hier.
Oui.
Or, il avait été arrêté par son propre contre-espionnage pour avoir échappé pour la troisième fois à l'élimination des responsables du Hezbollah à Beyrouth, puis à celle de Khamenei. C'est sous sa responsabilité, nous dit ce terme, qu'avaient été choisis les appareils de communication piégés, les fameux beepers dont nous parlions tout à l'heure.
J'ai pas compris, il a été tué par qui, par les Iraniens ?
Non, pour remettre un peu effectivement.
Oui.
Alors, il y a depuis très longtemps, les Iraniens se sont dit, les Israéliens ont trop d'informations sur ce qui se passe au plus haut niveau de l'État. Donc il y a une taupe parmi les nôtres.
Il y a un espion parmi nous, comme on dit dans...
l'espion parmi nous. Et l'espion parmi nous, peu à peu, il y a eu de plus en plus de gens qui ont dit, c'est lui. La personne dont on vient de parler, en disant c'est pas normal, il a échappé. Chaque fois qu'il y a un mauvais coup, il n'est pas dedans. Quand les Israéliens tirent sur le Hezbollah et qu'il est à une réunion, là, il n'y est pas. Quand on tire en Iran, lui, comme par hasard, il échappe. Donc, à chaque fois, il échappe. Donc, forcément, ça doit être lui. Mais il n'empêche qu'il était resté en place, quand même. Pourquoi ? Parce que c'était une question qu'on se posait, mais vous savez, entre passer à la réalité, c'est autre chose. Avoir la preuve que quelqu'un à ce niveau-là est de l'autre bord, c'est pas évident du tout à prouver. Et pour le moment, c'était pas prouvé. En tout cas, il est mort, donc maintenant le problème est réglé. Mais on saura dans les années à venir. Ouais. Il y aura bien des fuites et on saura effectivement qui étaient les gens qui étaient manipulés. Parce qu'il y en a, indiscutablement, gens dans l'état-major iranien, si vous voulez, au niveau des gardiens de la Révolution, des mollahs et autres, il y a des gens qui, effectivement, sont sous contrôle.
Oui, qui prennent une assurance sur l'avenir.
Bien sûr, mais ça, c'est... Et puis, alors, en plus, maintenant, ça doit jouer dans tous les sens.
Alors, un autre auditeur, alors je ne suis pas sûr de comprendre très bien ce qu'il nous dit, il met en doute le fait que les pilotes aient été retrouvés dans une zone désertique, parce qu'il dit que le terrain était manifestement stable et peu caillouteux, c'était bizarre qu'ils n'aient pas pu décoller, c'est de ces 130 là, et donc ils ont dû être détruits par les Iraniens, si je comprends bien. Et donc, tout cela se passe à moins de 50 km du centre de recherche nucléaire le plus important où est très probablement stocké l'uranium enrichi que Trump veut récupérer.
Non, ils ont été détruits pas par les Iraniens, par les Américains. Ce n'est pas les Iraniens qui ont détruit les Iraniens.
C'est cet auditeur, Alain Juillet.
Là, votre auditeur, il mélange avec autre chose, qui est une hypothèse qui a été lancée par les Iraniens et par les Américains, en disant, c'est pas normal. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il suffisait d'un avion ravitailleur en vol et des deux hélicoptères pour aller chercher le gars. Pourquoi on a posé deux C-130 au milieu sur un terrain pourri? Donc c'est pas normal. Et alors, il y a une version qui court, mais il n'y a aucune preuve, qui dit qu'en réalité, ce sont deux opérations qui se sont croisées. L'opération de récupération des pilotes qui a été réussie, et une deuxième opération qui était prévue où ils allaient récupérer les fameux 400 kilos
de plutonium.
Et que là, ça a foiré parce que les avions se sont posés et n'ont pas pu redécoller. Alors, pour la question du terrain, parce qu'il dit... la partie rocheuse, c'est la partie qui était... là où était le pilote. Le pilote, il était à 10 km de l'aéroport de Fortune. Il était dans la montagne, à 2100 mètres, à 10 km de là. Et là, c'était un sol rocheux. D'ailleurs, la crevasse, c'est parce qu'il y a un sol rocheux et on trouve une crevasse, il se met dedans. L'aéroport, il n'était pas dans la montagne, il était plus bas. Il était plus bas dans la vallée. Et quand on voit les photos de cette piste, si vous voulez, c'est pas une piste en dur, d'abord. C'est pas une piste en béton classique. C'est une piste pour des petits avions, pour des petits trucs, comme on en voit partout, pour décoller. Comme vous avez à Tissou-le-Noble, à Paris, ou à côté de Roquencourt, vous avez des avions qui décollent, mais sur des pistes. À Saint-Cyr-l'École, c'est ça. Mais vous avez cette piste-là, il y avait dessus, ça s'est prouvé, il y avait du sable en grande quantité. Or, quand un avion veut décoller, mais comme vous, quand vous marchez dans le sable, c'est plus difficile. Et là, quand un avion veut décoller, il faut qu'il atteigne une vitesse limite avant pour pouvoir décoller.
V2.
Déjà, quand on fait ce qu'on appelle un posé d'assaut, si vous voulez, ou un décollage d'assaut, on fait ça sur très très court. Il décolle sur 300, 400 mètres. Alors que normalement, un avion prend 1 km, 1 km 500.
Je comprends.
Il décolle sur très courte distance. Si jamais les roues patinent, ils ne prennent pas la vitesse suffisante et ils ne peuvent pas décoller. C'est ça qui s'est passé. Donc c'est un problème technique qui est parfaitement identifié par les pilotes. Mais qu'ils ne pouvaient pas connaître quand ils sont posés. Ils l'ont vu qu'une fois étant posés. Voilà, parce que pour se poser, vous vous posez dans du sable, à moins de vous enliser, où là l'avion va se cabrer, se casser.
Si c'est du fèche-fèche, hein, ça ne marche pas.
Bien sûr, mais si c'est du reg, pour parler en termes de Sahara, puisque vous connaissez.
Un petit peu.
Voilà, si c'est du reg, il n'y a pas de problème, vous posez l'avion.
Mais ce sont les Américains qui ont détruit les avions.
Absolument, ce n'est pas les Iraniens, c'est les Américains qui ont tout détruit. Il n'y a pas de doute là-dessus.
Leurs propres avions.
Ce qui est terrible.
Terrible. Voilà. Et un autre auditeur nous dit que la cible secondaire de tout cela serait bien l'Europe, parce que voilà, plus d'industrie, plus d'engrais, ni de carburant pour l'agriculture, dépendance totale au gaz américain, à un prix 5 fois plus élevé que le russe, sans oublier Nord Stream, les États-Unis sont bien la vraie menace pour les Européens, ni la Chine, ni la Russie.
Mais on a du gaz de l'ombre,
c'est un peu une soupe populaire.
Mais nous avons d'excellents auditeurs.
Voilà, avec un marchand.
Et je le corrigerai ce message en disant que la Russie fait partie de l'Europe. Hein.
Ouais.
80% des Russes sont à l'ouest de l'Oural.
Non, je crois qu'il faut être. On peut tout dire, mais non, la réalité, c'est pas ça. Le problème, je crois qu'on l'a expliqué, l'Europe a été complètement, c'est d'ailleurs une vraie question, l'Europe a refusé d'y être, mais l'Europe était complètement en dehors de cette histoire-là, fort heureusement.
On n'a même pas été prévenu,
mais tant mieux, parce que quand on voit ce qui se passe, l'impasse dans laquelle se sont mis les Américains, aujourd'hui, quand on voit et ce qu'ils vont devoir céder pour arriver à avoir une paix et sauver les mid-termes, il vaut mieux qu'on ne soit pas dedans, nous,
Ça, c'est clair.
Parce qu'en plus, tel qu'on connaît Trump, ils auraient dit c'est vous qui allez payer.
Puis on a une vraie carte à jouer maintenant, etc. Là, on a une vraie carte à jouer. Le terrain s'est dégagé.
Est-ce qu'il va se retirer de l'OTAN ou pas, votre
Philippe Charles,
c'est une coquille vide, l'OTAN.
Écoutez, moi, je crois. Alors là, comme Trump, il faut se méfier, parce qu'il est toujours en train de raconter plein de trucs. Et je vois pas comment il partirait de l'OTAN, non pas parce qu'il veut nous aider, vous comprenez, simplement, c'est parce que l'OTAN achète du matériel américain. Il y a aujourd'hui, il y a toute l'armée, à part notre pays et très peu d'autres, la plupart des pays européens achètent du matériel américain. Donc il ne va pas lâcher ça. Ou alors il dirait, je quitte l'OTAN, mais vous continuez à m'acheter du matériel américain pour que moi je continue à vous protéger un petit peu. Mais en supposant qu'il quitte l'OTAN, mais c'est le rêve de la France qui est enfin accompli. On va pouvoir faire une armée européenne.
Ouais. Alléluia.
Alléluia, mais exactement.
Il faudrait armée européenne. Moi, je crois pas trop pour l'instant, parce que quand des gens achètent des F-35, les Polonais achètent des Allemands F-35.
Je n'ai pas cru. Je n'ai jamais cru à l'armée européenne, et c'est pas maintenant que je vais y croire. Mais d'un autre côté, moi, je suis français. Depuis des années, la France dit il nous faut une armée européenne parce que c'est la solution. On devrait crier victoire en disant ça y est, on va l'avoir.
Oui, d'accord.
On est d'accord. Bon, maintenant, on verrait qu'elle est irréelle. Malheureusement, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Pas à 28, en tout cas.
Alain Juillet, on arrive au terme de notre entretien. C'était passionnant. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes l'ancien directeur du renseignement au sein de la DGSE. Il y a longtemps, mais vous en avez gardé d'excellents restes. Et j'avais une question simplement à vous poser. Finalement, très simple, en conclusion, qui a gagné ce conflit?
Moi, je pense que... Alors, déjà,
qui
y a une
tire
chose
les marrons du feu?
Je crois... Alors, si vous voulez, l'Iran, on va voir la négociation. Si l'Iran obtient la levée des sanctions, l'Iran n'a pas perdu, bien au contraire, parce que la levée des sanctions, ils en rêvent depuis 30 ans. Ça va dépendre des négociations. Les Américains, s'ils réussissent à faire la paix, on pourra dire, ils se sont trompés au départ, mais ils ont réussi à redresser la situation, ils ont fait la paix. Mais il restera pour tous les pays du monde en dehors des Européens, donc en dehors des Occidentaux, il restera que la première puissance du monde, elle a vu une petite puissance intermédiaire qui l'a tenue tête et qui s'en est sortie. Donc pour eux, c'est très mauvais. De toute manière, le bilan n'est pas bon. Mais ceux qui perdent le plus aujourd'hui, après on parle de ceux qui gagnent vraiment, ceux qui perdent le plus, c'est les Israéliens. Et je vois Lapid, qui est le patron de l'opposition israélienne, et qui est un faucon pourtant, donc c'est pas un tendre. C'est pas un démocrate gentil, pas du tout. Mais Lapid a dit avant-hier, mais si on en arrive là à la fin, c'est un désastre pour Israël. Et je crois que c'est lui qui a raison. Parce que les conséquences seront multiples.
Mais est-ce que dans la négociation, Philippe la Charles. Reconnaissance, si on cède par exemple la suppression des sanctions aux Iraniens, est-ce que les Israéliens ne sont pas en mesure de demander la reconnaissance d'Israël par les Iraniens?
Ah oui, mais il n'est pas dit que les Iraniens ne fassent pas la reconnaissance d'Israël.
D'accord.
Si on leur lève toutes les sanctions, vous savez, contre la garder les missiles, lever des sanctions et contrôle d'Hormuz, à mon avis, ils seront prêts à reconnaître Israël. Hein.
Oui, bon, ça sera un grand pas quand même.
Mais oui, mais bien sûr. Mais oui.
Donc Israël ne sera pas complètement perdant.
Non, mais il sera quand même perdant parce que dans cette affaire-là, Netanyahou, lui, il ne faut pas l'oublier, hein. Netanyahou, ce qu'il veut, c'est le grand Israël, Eretz Israël, comme on dit là-bas, ce qui n'est pas du tout ça, c'est occuper tous les pays autour en disant c'est à nous. Et là, ce rêve-là est mort. Même en Cisjordanie, ils sont encore en train, vous avez vu ce qui se passe en Cisjordanie, ça a encore continué, ils viennent d'annoncer 34 colonies nouvelles. Bon, vous avez vu qu'ils viennent de voter un vote, ils ont fait un vote à l'Assemblée incroyable, où on peut condamner à mort les Palestiniens, les Palestiniens, mais pas les Juifs.
Oui, oui.
C'est invraisemblable.
Non, c'est hallucinant.
Mais c'est hallucinant. C'est de l'apartheid, mais alors...
Oui.
Bon, il faut dire des choses comme ça, parce que c'est là où on voit que c'est un pays... Heureusement, d'ailleurs, c'est un pays qui n'est pas uniquement comme M. Netanyahou. Heureusement, il y a des gens raisonnables. Il y a les gens qui sont la cour de justice.
Oui, il y a plusieurs partis.
Il y a plusieurs partis tout à fait raisonnables. Il y a des gens normaux. Mais là, on a l'impression que l'ubris les a, pour prendre les points, dans les dirigeants, l'ubris les a pris et puis ils ont fait un peu n'importe quoi. Donc pour eux, c'est très mauvais. Dans tous les cas de figure, c'est mauvais.
Même s'il
y a la reconnaissance. Ouais, Netanyahou, lui, c'est terrible. Dernier point, si la Chine est la grande gagnante.
Ouais.
Alors qu'elle la Chine pouvait être la grande perdante.
Donc gagnante.
Oui, mais elle pouvait
pourquoi,
être la grande
perdante. Elle pouvait être la grande perdante, mais elle avait prévu le coût des coupures de fourniture. Elle a 6 mois de stock, la Chine, en pétrole.
C'est pas
Donc elle tient, elle s'en fout, elle tient actuellement. Hein? Bon, et puis elle a lancé depuis 2018, elle a lancé le pipeline qui part d'Iran, qui va aller chez eux, qui n'est pas encore terminé, mais qui passe par l'Afghanistan, le pays Ouïghour et autres, bon, et qui amène. Les Russes ont lancé depuis Yamal, au Nord-Sibérie, ils ont lancé aussi
un pipeline, vous
savez
plus,
bien, qui descend sur la Chine.
Qui s'appelle Force de Sibérie.
Et oui, en définitive, les pays... Les BRICS, si vous voulez, ne sont pas perdants. Les grands perdants, c'est l'Occident.
Pour l'Occident.
C'est l'Occident. Ouais, ouais.
Alors Trump rentrera à Cuba.
À Cuba, ça c'est encore autre chose.
Ouais, bon,
mais Alain Juillet... il mettra, juste, excusez-moi, on en parle aujourd'hui, il fera comme au Venezuela, où il a mis la numéro 2 du régime, Dulcy Rodriguez, comme il est en train de faire en Iran, parce que l'objectif c'est bel et bien de nommer un gardien de la révolution comme patron, a priori ça sera le président de l'Assemblée nationale, Ghalifa, gardien de la révolution, mais comme on l'avait toujours dit, donc s'il se passe. Et en ce qui concerne Cuba, c'est le petit-fils de Castro, qui est l'homme qui est poussé actuellement par les Cubains et par les Américains, parce qu'il est réformiste, mais dans le système.
Celui Marc Rubio, qui est en exilé.
Jean-François Coulon-Désart, merci beaucoup. Alain Juillet, merci beaucoup. C'était absolument passionnant, mais il faut qu'on arrête. La pendule tourne. Nous parlerons de David Lisnard et du nouveau Javier Milei français. Il y avait un gros point d'interrogation quand même, je vous rassure. Une prochaine fois, je rappelle que vous êtes l'ancien directeur du renseignement au sein de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, la DGSE. C'était absolument passionnant. Merci de nous avoir éclairés pour tous ces enjeux. Vous reviendrez, j'espère, parmi nous, et on va passer directement à notre clin d'œil culture.
Restons courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
Avec quand même, avant de passer à notre clin d'œil, deux petits mots de nos auditeurs. D'abord une auditrice qui nous dit bravo et merci pour votre riche émission. Elle nous donne un conseil d'invitation que je regarderai. J'ai toujours hâte, nous dit-elle, d'être au vendredi soir, bien courtoisement. Vous revenez quand vous voulez, chère auditrice. Ça nous fait très plaisir. Tout le monde sourit autour de la table de plaisir. Voilà, et puis un autre auditeur nous disait « Je partage l'avis de M. Coulon-Désart au sujet du 1er mai, et je rappelle à Damien Chalamel que les services publics fonctionnent le 1er mai, les commissariats de police fonctionnent, même les casernes de sapeurs-pompiers. »
Je le savais.
Merci. Il le sait. Voilà.
Alors, notre clin d'œil culture, ils ont tous préparé leurs œuvres culturelles et ce qu'il faut absolument faire cette semaine. Qu'est-ce qui veut commencer, Jean-François? Allez, Jean-François Coulon-Désart.
Là, j'ai un livre entre les mains d'un monsieur qui s'appelle Vincent Crouzet.
Très court, vous avez 30 secondes.
Son livre, Le jour où je suis devenu espion. Alors, il nous explique qu'il a été agent pour la DGSE pendant plus de 20 ans, etc. Il nous emmène en Afrique, au Liban, au Congo, au Zaïre. C'est la légende, c'est officier traitant, les couvertures. Bref, c'est une espèce de sorte de SAS avec beaucoup moins de volupté. Ouais. Donc voilà, mais oui, j'ai l'impression...
Qu'on peut laisser dans toutes les mains, donc.
J'ai vraiment l'impression, en juillet, qu'il manque quelque chose à la une de ce livre, c'est le mot roman, non?
Ah ouais, moi je pense qu'il est très inventif. C'est quelqu'un qui est un très bon romancier, romancier de réalité, comme dirait Bernard-Henri Lévy. Hein, vous savez, c'est qui invente tout sur une réalité qu'il a lue ailleurs, parce que c'est, on est dans ce cas-là.
On est dans ce cas-là.
Alors,
s'il veut se défendre, il me contacte. Voilà, on le compte pas parmi les gens qui ont travaillé dans cette belle maison.
À ma connaissance, en tout cas, les gens cherchent toujours où il a travaillé.
Donc il a peut-être travaillé, c'est la question.
Non mais on peut lire son bouquin quand même, hein, c'est pas mal, hein, c'est un bon romancier.
Apparemment,
hein.
Il a travaillé la question. Philippe Charlez.
Oui, moi je suis, j'ai pas terminé, mais je suis en train de lire un livre tout à fait passionnant qui s'appelle « L'islam contre la modernité » de Fergan Aziari. Alors il avait écrit un premier livre qui s'appelait « L'écologie contre la modernité », il écrit « L'islam contre la modernité ». ». Vraiment c'est à lire parce que, en plus... Il est d'origine comorienne et musulmane et donc beaucoup de courage derrière son livre.
Merveilleux. Damien Chalamel, bravo pour le timing.
Moi, je recommanderais un des humoristes les plus brillants du moment, Guillaume Glisset, qui est en spectacle.
Ah, c'est pas Guillaume Meurice, non?
Non. Rien à voir. C'est un humour de droite, on peut le dire. Ouais. Je pense que les auditeurs Radio Courtoisie apprécieront. J'ai l'accroche du producteur à propos de Guillaume Glisset. Né à Neuilly dans une famille nombreuse, Guillaume a survécu aux prières en latin, à la dépression de ses potes néo-ruraux et à la tristesse des brunchs de la rive droite. Voilà, dans tout un programme. Alors, malheureusement, il a tellement de succès que il n'y a plus de place à Paris, mais à Lyon, à Bordeaux, à Nantes, à Mâcon, à Toulouse, au Mans, etc. Il y a encore des places de libre. Et par ailleurs,
donc c'est un humoriste, hein, c'est ça.
C'est un humoriste, Guillaume Glisset. Il sera à partir de fin septembre à Paris, à la Scala.
GLI 2ST.
L'école de Gaspard Proust.
Exactement, mais Gaspard Proust que nous n'entendons malheureusement plus.
Il
faudrait qu'on le... Nous l'attendons avec impatience.
Il est invité sur Radio Courtoisie, en tout cas, dans notre émission. Et moi, je voulais juste vous raconter que Christie's va vendre une collection en septembre, une collection de 350 photos qui font partie des 3000 tirages et albums réunis par Roger Théron. Alors, Roger Théron, les plus jeunes connaissent peut-être plus du tout, mais nous tous, on connaît bien Roger Théron. C'était évidemment l'œil de Paris Match pendant un demi-siècle. C'est lui qui a fait, on parle beaucoup de Paris Match avec cette romance Bardella, c'est lui qui a fait Paris Match. Il a disparu en 2001, il avait 76 ans, et donc il avait un œil extraordinaire pour les photos et ils vont être vendus donc en septembre. C'est les premiers daguerréotypes des années 1840, et puis des photos de Jacques-Henri Lartigue, Man Ray, Dora Maar, Édouard Baldus, etc.
Ah oui, voilà. Du beau monde.
Quand on a passionnément aimé la presse papier, c'est quelque chose de merveilleux. Allez, restons courtois du vendredi, c'est fini. Merci à tous, merci à la technique Stéphane, merci chers auditeurs de nous avoir suivis, accompagnés, commentés, heureux d'avoir passé ces deux toutes petites heures en votre compagnie comme Boulevard Voltaire. Radio Courtoisie reste un miracle permanent et fragile qui ne vit que de dons. Aider Radio Courtoisie dans le climat actuel, c'est un devoir. Nous, on se retrouve le vendredi 17 avril, même heure, même adresse. Restons courtois, 17h30, 19h30 sur Radio Courtoisie avec Boulevard Voltaire et toute la joyeuse bande. Je ne sais pas vous, mais nous, on a déjà hâte.
Ça suffit maintenant.